Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.
Car Lucie avait bien assez de pain sur la planche. Il fallait sortir les portes de leur gond. Les serveurs de Rumpelmayer allaient arriver.
And then thought Clarissa Dalloway, what a morning, fresh as if issued to children on a beach.
La bouffée de plaisir, le plongeon, c'est l'impression que cela lui avait toujours fait lorsque, avec un petit grincement des gonds qu'elle entendait encore, elle ouvrait d'un coup les portes-fenêtres à Burton et plongeait dans l'air du dehors.
How fresh, how calm.
Il était calme.
Still than this, of course, the air was in the early morning, like the flap of a wave, the kiss
comme
of
le baiser
wave,
d'une vague,
chill and sharp,
and
yet,
temps,
for a girl of 18 as she then was, solemn,
solennelle,
feeling as she did, standing there at the open window,
ouverte,
that something awful was about to happen. Looking at the flowers, at the trees with the smoke winding off them and the rooks rising, falling.
Restant là à regarder, jusqu'au moment où Peter Walsh avait dit « Songeuse au milieu des légumes, était-ce bien cela ?» Ou n'était-ce pas plutôt « Je préfère les humains aux choux-fleurs »
L'émission qui suit a été approuvée pour un public averti, crâne d'œuf et avide de bêtises. Supervision parentale fortement déconseillée. Visa d'exploitation numéro 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Les yeux ont des oreilles. Saison 1, épisode 8. Littérature et cinéma. Avec Willem Hardouin dans le rôle de Willem, Camille Tijiti dans le rôle de Camille et Figaro dans le rôle du crâne. Enregistrement, Robin Koch. Réalisatrice, Caroline Duvauzin. Mise en ligne, Nicolas Auvray. Produit par Transistor Web Radio, sur une idée originale de Viviana Pezzullo, avec la participation exceptionnelle de Thomas Lacombe. Ici Caroline dans Lyon numéro 8, qui, oui, est toujours une émission de lecture, quelles que soient les choses saugrenues que j'y rajoute au montage. Avant mon délire de geek, vous avez entendu en accroche la première page de Mrs. Dalloway, lue par moi-même et par Will, traduction Marie-Claire Pasquier. Ce grand classique de Virginia Woolf, dont l'écriture est fortement marquée par des techniques cinématographiques, a inspiré le roman « Les heures » de Michael Cunningham, lui-même magistralement porté à l'écran par Stephen Daldry en 2002 dans le film « The Hours ». Nicole Kidman, Julianne Moore et Meryl Streep s'y disputent l'affiche et déclinent notamment la toute première phrase du roman, écrite, lue, puis prononcée.
« Mrs. Dalloway said she would buy the flowers.
Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.
Sally, I think I'll buy the flowers myself.
What? What flowers?
Shit.
En matière de romans adaptés en film, nous n'avions que l'embarras du choix. Toujours un problème quand tout doit tenir en une grosse demi-heure. Et par ailleurs, peu propice à la discussion. La qualité d'une adaptation est assez subjective et dans 95% des cas, par la même décevante. Je me dois par ailleurs de vous informer que ma culture filmique, comme ma culture musicale, est très limitée. Peut-être pas celle d'un pigeon, mais disons d'un gros canard sauvage. Point donc d'expertise dans notre fine équipe de tournage, mais pas non plus la foire aux comparaisons basiques film-livre. Plutôt des livres qui parlent de cinéma, s'inspirent de films, écrivent en travelling et en 35mm. Bref, qui exploitent la différence des médias au lieu de la déplorer. Et toujours avec une BO du tonnerre et une option VO sous-titrée. Mais au préalable, catharsis collective pour évacuer toute colère adaptatrice, je vous ai demandé le nom d'un réalisateur que vous aimeriez envoyer dans le dernier cercle de l'enfer pour ce qu'il a fait un livre que vous aimez, et aussi à quel supplice poétique vous voudriez le voir soumis pendant toute l'éternité. Nous ne sommes pas des psychopathes, aucun décor n'a été retrouvé. Donc moi, c'est quelqu'un qui s'appelle Rupert Sanders, c'est le pauvre R qui a réalisé Blanche-Neige et le Chasseur en 2012. C'est-à-dire que c'est à la fois une insulte au conte originel, à la version de Disney et au bon goût de n'importe quel être humain basiquement constitué. Enfin, c'est vraiment... tout est débile, les dialogues, la filmographie, l'actrice principale. Il a piqué des extraits dans tous les films. Il a plagié Miyazaki. Tu n'as pas le droit de plager Miyazaki comme ça, surtout sans avoir un talent. Et en plus, alors que Eragon ou À la croisée des mondes ont eu la décence de faire des énormes flops, il va y avoir un 2. Nous sommes foutus. Donc je le condamne à être dévoré petit bout par des vampires ou à passer le reste de l'éternité avec Kirsten Stewart, ce qui est pire dans mon avis. Will.
Alors pour moi, ce ne sera pas une adaptation de livre, ce sera Brett Ratner qui nous a fait X-Men 3, puisque quand je suis ressorti du cinéma, j'ai regretté d'y être entré. Parce que tout simplement, il tue tous mes personnages préférés. Et donc, je le condamnerai pour l'éternité à entendre tous les cris des fans désespérés devant son adaptation.
Camille ?
Alors moi, ce sera Chris Weitz, pour ce qu'il a fait au roman de Philip Pullman, La boussole d'or, et ce qu'il a fait à mon enfance par la même occasion. Donc je le condamne à la fois à être séparé de son démon, pour ceux qui ont lu le livre, donc c'est quand même une souffrance atroce, et ensuite avoir le visage éternellement lacéré par les ongles de la méchante Nicole Kidman.
Thomas ?
Alors moi, c'est Thomas Langman, un confrère donc de prénom, pour le film qu'il a réalisé, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, tout simplement parce qu'on ne retrouve pas l'univers de la BD en soi, et que même si on part du fait que c'est une mauvaise adaptation et qu'on le considère juste comme un film comique, ça ne fait pas rire du tout. Donc pour toutes ces raisons-là, eh bien je propose de l'attacher sur un canapé, de lui arracher les paupières et de l'obliger ainsi à regarder en boucle son film pour l'éternité.
Si la CIA nous écoute, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. À la place, méditez sur cette phrase. Le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière. Jean Cocteau. Et comme j'ai pas de transition, fondu enchaîné. Les Grandes Blondes est le 8e roman de Jean Echenoz. Paul Salvador, producteur d'émissions télévisuelles, lance une armée de détectives aux trousses d'une chanteuse disparue des années 80, Gloire Abgral, qu'il veut pour le 5e volant de sa série sur les Grandes Blondes dans le cinéma et la chanson. Dans cette scène, il passe en revue les dites blondes, avec son assistante Donatienne. Camille, première lecture, prise 1. Moteur, silence sur le plateau, et action!
Les Grandes Blondes. Récapitulons. Procédons par auteur. Nous avons donc les Hitchcockiennes, puis nous avons les Bergmaniennes, puis nous avons celles des films soviétiques, pays satellites inclus. Ensuite, je ne vois plus trop. Reprenons. Procédons peut-être géographiquement, plutôt. Principalement américaines, européennes, disons d'outre-Atlantique, à l'Oural. Les Grandes Blondes peuplent surtout l'hémisphère nord. Oui. Pas terrible non plus comme angle. Nous pourrions commencer par un repère classique où tout le monde se retrouve. Disons le triangle emblématique, Monroe, Dietrich, Bardot. Est-ce que ce n'est pas un peu convenu ? S'inquiéta Donatienne. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça 100 fois ? Si tu veux, dit Salvador. Bien. On va plutôt s'organiser par personnalité. Oublions ces trois grandes blondes classiques, envisageons les bizarreries. Voyons les cas particuliers, style Anita Ekberg, tu vois, ou Julie London, dans un autre genre. Passe-moi le fichier. Voyons. Nous avons les solitaires, les marginales, les ratées. Nous avons également quelques insignifiantes. Il convient de mentionner le cas de certaines marrantes. Nous devons tenir également compte de la très petite quantité de moches. Comment créer un ordre ? Comment classer tout ça ? En fait, elle n'était pas si grande que ça, Monroe, fit remarquer Donatienne penchée sur le fichier. 1m61. Rien à voir, dit Salvador sans lever la tête. Tu ne sais pas ma méthodologie. Pas forcément besoin d'être grande pour intégrer la catégorie des grandes blondes. Pas nécessairement, il réfléchit. Peut-être même, au fond, pas absolument besoin non plus d'être blonde, d'ailleurs. Je ne sais pas encore.
Assis à cheval sur mon petit pot, sillonnant l'océan Arctique, autant des chevilles, mon petit bateau, prenait des airs de Titanic. Leonardo DiCaprio le collectionnait que les coliques, que déjà au milieu des flots j'avais les os cartologiques. J'ai alors décidé,
il a alors décidé,
j'ai alors décidé de devenir acteur d'un film qui s'appellerait molestement ma vie.
Suis-là, elle te fuit, fuis-là, elle te suit. La célébrité, bien sûr. En virgule, les blaireaux et leur rêve de gloire décalée dans la chanson cinéma. Merci Camille. Par contre, les grandes blondes, on les préfère en peinte et chez Ninkasi. Oui, oui, placement de produits, vous croyez qu'elle se finance comment cette radio ? En tout cas, pas à coup de prix Goncourt, vous voyez un peu la qualité du script qui vous bidouille éhontément des transitions bateau. Romain Gary, par contre, réussit à mystifier la communauté littéraire en se voyant attribuer une deuxième fois cette prestigieuse récompense pour La vie devant soi, publiée sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Le jeune Momo n'a pour mère que la vieille Madame Rosa, qui autrefois se défendait avec son cul, entendait prostituée. Pendant sa maladie, il suit une jeune femme aperçue dans la rue jusqu'à un studio de doublage où il assiste à une scène étrange. Lecture de Willem. Le roman a par ailleurs été adapté en film par Moshe Mizrahi en 1977.
L'entrée de l'immeuble menait à un deuxième immeuble, plus petit, à l'intérieur, et dès que j'y suis entré, j'ai entendu des coups de feu, des freins qui grinçaient, une femme qui hurlait et un homme qui suppliait « Ne me tuez pas, ne me tuez pas !» Et j'ai même sauté en l'air tellement c'était trop près. Il y a eu tout de suite une rafale de mitraillettes et l'homme a crié « Non !» Comme toujours lorsqu'on meurt sans plaisir. Ensuite, il y a eu un silence encore plus affreux. Et c'est là que vous n'allez pas me croire. Tout a recommencé comme avant, avec le même mec qui ne voulait pas être tué parce qu'il avait ses raisons et la mitraillette qui ne l'écoutait pas. Il a recommencé 3 fois à mourir malgré lui, comme si c'était un salaud, comme ce n'est pas permis, et qu'il fallait le faire mourir trois fois pour l'exemple. Il y eut un nouveau silence pendant lequel il est resté mort, et puis ils se sont acharnés sur lui une quatrième fois et une cinquième fois, et à la fin il me faisait même pitié parce qu'enfin tout de même. Après, ils l'ont laissé tranquille, et il y a eu une voix de femme qui a dit « Mon amour, mon pauvre amour », mais d'une voix tellement émue, et avec ses sentiments les plus sincères, que j'en suis resté comme deux ronds de flanc, et pourtant, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il n'y avait personne dans l'entrée sauf moi, et une porte avec une lampe rouge allumée. Je suis à peine revenu de l'émotion qu'ils ont recommencé tout le bordel avec « mon amour », mais chaque fois sur un autre ton. Et puis ils ont remis ça encore et encore. Le mec a dû mourir 5 ou 6 fois dans les bras de sa bonne femme, tellement c'était pour lui le pied de sentir qu'il y avait là quelqu'un à qui ça faisait de la peine. J'ai pensé à Madame Rosa, qui n'avait personne pour lui dire « mon amour, mon pauvre amour », parce qu'elle n'avait pour ainsi dire plus de cheveux et pesait dans les 95 kilos, tous les uns plus moches que les autres. Là-dessus, la bonne femme ne s'est tue que pour lancer un tel cri de désespoir que je me suis précipité vers la porte et à l'intérieur comme un seul homme. Merde, c'était une sorte de cinéma, sauf que tout le monde marchait en arrière. Quand je suis entré, la bonne femme sur l'écran est tombée sur le corps du cadavre pour agoniser dessus. Aussitôt après, elle s'est levée, mais à l'envers, en faisant tout à reculons comme si elle était vivante à l'aller et une poupée au retour. Puis tout s'est éteint et il y a eu la lumière.
Moi je vis chez Amélie Poulain.
Merci Will. Et soyons clairs, on aime les romans et les films qui parlent des petits riens du quotidien. Donc si vous avez entendu Les Fatales Picards avec Chez Amélie, c'était pour se moquer gentiment. Il y a des mots qu'on lit sans les voir et d'autres qu'on ne penserait jamais à lire. Aux antipodes de la littérature, voici les lectures insolites. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des crédits de la fin des films que personne ne lit. À une certaine époque, c'était au début des films, donc on était plus ou moins obligés de les regarder. Les Monty Python dans Sacré Graal en tirent quand même un parti hilarant, avec des faux sous-titres suédois complètement débiles qui dégénèrent en délire avec un élan. Et après, ils virent les mecs qui font le sous-titrage. Et après, c'est un autre mec qui est obsédé par les lamas et ses couleurs fluorescentes. Et alors, j'ai trouvé un moment où quelqu'un qui travaillait pour la BBC a apparemment pété une durite.
BBC Entertainment and BBC Worldwide, in association with To Entertain, present The Coupe 2. With music from Someone Different, original music by... anyone really. Casting by, oh god. Costume design by, seriously, special makeup. I mean, costumes designed by, will anyone actually read this? And I could be out. Assistant to chief animator, getting wankered. Visual effect, but instead, sound effect supervisor, I'm doing this. Edited by, for shitty. Assistant director, gag that, line producer. No one will ever, production designer, ever freaking see. Director of photography, except you. Written by, and just what the hell are you doing? Produced by, pausing this. A film by Go and Get Laid Instead.
Et donc, on est d'accord qu'il a été viré.
En fait, il y a actuellement une enquête avec Interpol pour essayer de retrouver cet homme.
Au minimum.
Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Alors, est-ce que vous avez vu La Reine des Neiges ?
Oui.
Oui.
Est-ce que vous avez regardé attentivement les crédits de la fin ?
Non.
Non.
Vous êtes nul.
Oui.
Thomas est très docile. Il y a un disclaimer, enfin un avertissement en disant que... l'opinion exprimée par Christophe, comme quoi tous les hommes mangent leur propre crotte de nez, n'est pas représentative de la vie de Disney ou de tous ceux qui travaillent pour eux. Ensuite, on voudrait vous conseiller un Tumblr que Will a trouvé, donc avec des sous-titres vraiment des sous-titres ratés, donc qui s'appelle Les sous-titres de la honte. Bon, je trouvais que le premier plairait beaucoup à Thomas.
Aha.
Donc, extrait de la série Once Upon a Time, à propos de Regina, vous êtes une grognasse. Et pour finir. Tout en poésie, je vais vous lire des citations de Jean-Claude Van Damme. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils ne savent pas. Il faut réveiller les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont en contact, tout ça. Tu as un rhume et tu fais toujours sniff. Il faut que tu te mouches. Tu veux un mouchoir ? Alors il y a des gens qui ne sont pas aware. Moi je suis aware, tu vois, c'est un exemple. Je suis aware. Et tout en modestie. Marcel Proust, oui, un peu comme moi. Longtemps, il s'est couché. Aware.
Dans la scène suivante, la version française et autres sous-titres ne sont pas disponibles. Allergique à l'espagnol, s'abstenir.
La Invención de Morel, d'Adolfo Bioy Casares, raconte l'histoire d'un réfugié politique caché sur une île en Polynésie. un groupe de touristes dont fait partie le fameux Morel débarque sur l'île, mais se révèle pour le moins étrange. Ils ne perçoivent pas la présence du narrateur, disparaissent, puis réapparaissent et répètent toujours les mêmes conversations. L'invention de Morel est en réalité une machine capable de reproduire la réalité et d'y enfermer l'âme de ses sujets, condamnant les originaux à mort. Cherchant à s'intégrer dans cette réalité alternative pour rester auprès d'une des femmes dont il est tombé amoureux, le narrateur se livre à une série d'expériences d'enregistrement, dont une sur sa propre main, dont l'image prend vie. Cette lecture psychédélique vous est bien entendu offerte par Camille.
Primero, hice funcionar los receptores y proyectores para exposiciones aisladas. Puse flores, hojas, mocas, ranas. Tuve la emoción de verlas aparecer reproducidas y las mismas. Después, cometí la imprudencia. Puse la mano izquierda en el receptor. Abrí el proyector y apareció la mano, solamente la mano, haciendo los perezosos movimientos que había hecho cuando la grabé. Ahora, es como otro objeto, o casi animal, que hay en el museo. Dejo andar el proyector, no hago que la mano desaparezca. Su vista, más bien curiosa, no es desagradable. Esta mano, en un cuento, sería una terrible amenaza para el protagonista. En la realidad, ¿qué mal puede hacer? Los emisores vegetales, hojas, flores, murieron después de 5 o 6 horas. Las ranas, después de 15. Las copias sobreviven, incorruptibles. Ignoro cuáles son las moscas verdaderas y las artificiales. A las flores y a las hojas, tal vez, les haya faltado agua. No di alimentos a las ranas. Han de haber surgido, asimismo, por el cambio de ambiente. En cuanto a los efectos sobre la mano, sospecho que vengan de los temores provocados en mí por la máquina y no de ella misma. Tengo un ardor continuo, pero débil. Se me ha caído algo de piel. Anoche estaba inquieto. Presentía horribles transformaciones en la mano. Soñé que la rascaba, que la deshacía fácilmente. La habré lastimado entonces.
Merci Camille, et en virgule, What You Know, du groupe Two Door Cinema Club. Poussons la porte d'une autre salle de cinéma, de la science-fiction, plongeons directement dans le futile. J'ai nommé l'industrie de la mode. On vous l'a dit, un très bon livre peut donner un mauvais film. Mais parfois, gloire à Chuck Norris, un mauvais livre donne un bon film. Le Diable s'habille en Prada, comédie dramatique de David Frankel de 2006, dans lequel brille Anne Hathaway, Meryl Streep ou encore Emily Blunt, est d'abord un livre de Lauren Weisberger et d'après Will, mauvais. Nous, on le croit sur parole. Et pour illustrer cela, une scène où Andy change de vêtements, transformé dans la virgule qui suit, dans un tour du monde rythmé de la féminité. Traduction de Christine Barbaste.
Comme j'effectuais ce trajet tous les jours, voire deux fois par jour, je savais que je disposais très exactement de 8 minutes pour souffler, reprendre mes esprits et, éventuellement, imaginer un moyen de dissimuler les taches de transpiration et de cendres qui s'étaient transformées en imprimés permanents sur le pantalon Gucci. Quant aux escarpins, leur sort était sans espoir, du moins jusqu'à ce que les équipes de cordonniers appointées par Runway pour ce type d'urgence puissent se pencher sur leur cas. En fait, le trajet n'a duré que 6 minutes et demie. Un pied au ras du sol et l'autre perché sur 11 cm de talon, j'ai claudiqué comme une girafe en mal d'équilibre jusqu'à la réserve. En un tour de main, j'y ai dégoté une jupe en cuir, une paire de bottes flambant neuves Jimmy Choo et j'ai ajouté le pantalon en daim à la pile du nettoyage couture, dont les tarifs par article débutaient à $75. Une halte au studio beauté où, à la vue de mon maquillage strié par la transpiration, une des rédactrices s'est empressée de sortir une mallette remplie de produits réparateurs et le tour était joué. Pas mal, ai-je jugé en m'apercevant dans l'un des miroirs en pied omniprésent. Qui aurait pu soupçonner que, quelques minutes auparavant, j'étais un véritable danger public sur le point d'oscire tout ce qui bougeait dans les parages, moi incluse ? J'ai filé d'un pas assuré jusqu'à notre bureau, qui faisait antichambre à celui de Miranda, et je me suis tranquillement assise à ma place, en espérant bien bénéficier de quelques instants de répit avant son retour de déjeuner. Andrea, où sont la chaîne et la voiture ? Her face is a map of the world.